Europe 1.
De retour sur Europe 1, le 25 septembre prochain, l'Italie est appelée aux urnes, les élections générales, l'élection des députés et des sénateurs selon un système complexe. Il nous replonge, nous autres Français, en pleine 4e République, entre jeux d'alliance, pouvoir partagé entre les deux chambres et un président de la République sans réel pouvoir. Ça, nous le répétons à chaque élection de l'autre côté des Alpes. Sauf que ces scrutins de septembre pourrait placer la droite post-fasciste à la présidence du Conseil. Éclairage donc ce soir avec Marc Lazare, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Italie. Bonsoir.
Bonsoir.
Marc Lazare, le visage du post-fascisme, c'est celui de Giorgia Meloni, chef d'un parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie. Si on se fie aux sondages et que l'on prend en compte l'état des forces en présence, la droite domine. Et c'est Giorgia Meloni qui domine la droite, 23% d'intention de vote devant la Lega de Matteo Salvini, 15%, et Forza Italia de Silvio Berlusconi, plus au centre, est crédité de 8%. Les trois forces se présenteront en septembre prochain coalisées. On a donc toutes les chances de voir Giorgia Meloni devenir successeur de Mario Draghi.
Oui, en effet. Alors attention, vous le savez, une élection n'est jamais jouée d'avance. Hein. Il reste quelques semaines, c'est une étrange campagne électorale qui s'amorce. L'Italie n'a jamais voté à l'automne, enfin en tout cas à la fin de l'été. Comme les Français, les Italiens sont sur les plages, dans les montagnes, à la campagne ou éventuellement dans les villes. Ils s'intéressent peu à cette campagne. On attend d'ailleurs une forte abstention. Mais oui, vous avez raison, cette coalition qu'on appelle en Italie de centre-droit qui risque de l'emporter. Et notamment à l'intérieur de cette coalition, vous l'avez dit, ce parti étrange, Frères d'Italie, qui vient du fascisme, que vous avez qualifié de post-fasciste, c'est peut-être une bonne qualification. C'est une formation qui ne renie pas son passé, qui ne le revendique pas non plus, et qui essaye, avec Madame Giorgia Meloni, de se présenter comme un parti conservateur, vous voyez, plutôt proche de Viktor Orban en Hongrie ou des Polonais. Voilà, il ne faut pas s'attendre à un défilé de chemise noire le 25 septembre au soir, il ne faut pas s'attendre à des violences dans les rues, il ne faut pas s'attendre à une sorte de nouveau Mussolini. On est loin de tout ça, mais c'est surtout un parti conservateur nationaliste, un peu critique de l'Europe, voire assez critique de l'Europe, tout en disant que dorénavant l'Italie restera en Europe et dans la monnaie unique, et aussi très critique de la France.
Voilà, Giorgia Meloni qui se prépare à occuper le pouvoir. Elle adresse aujourd'hui une vidéo dans laquelle elle affirme que le fascisme appartient au passé, à l'histoire. C'est une façon de rassurer les partenaires européens de l'Italie, très important.
Oui, bien sûr, et puis aussi de rassurer une partie de son électorat, parce que effectivement, elle essaye de rassembler un large spectre des forces politiques de droite, y compris des électeurs plus modérés. Alors, et oui, bien sûr, elle dit que ça appartient au passé, mais elle ne le renie pas. Elle ne dit pas que le fascisme a été une abomination, un régime totalitaire. Elle est toujours un peu ambivalente parce qu'elle a commencé sa carrière politique dans le mouvement jeunesse fasciste. Elle essaye de s'en sortir, mais quand on lit par exemple le journal de son parti, on voit qu'il y a des propos très ambigus. On sait qu'il y a aussi autour d'elle des gens qui sont toujours nostalgiques du fascisme. Elle est dans une opération de sortie très compliquée, très tourmentée de ce passé fasciste. Et elle essaye en ce moment surtout de rassurer à la fois les Italiens et de rassurer les Européens.
Alors cet héritage fasciste, c'est la principale différence qu'il y a entre Giorgia Meloni et l'autre courant très important, 15% dans les sondages, on vient de le dire, la Ligue de Matteo Salvini.
Oui, c'est effectivement, la Ligue n'a jamais eu de rapport avec le fascisme. Au départ, c'est une formation régionaliste dans le nord de l'Italie, puis qui, à partir de 2013, a essayé de devenir une sorte de front national un peu comparable à ce qui existait avec Marine Le Pen, à l'époque où ça s'appelait le Front National, un parti souverainiste, un parti nationaliste, mais qui est en perte de vitesse. Et notamment la personnalité de Matteo Salvini commence à susciter des doutes, y compris dans l'électorat de droite, parce qu'il est un peu inconséquent, alors que Giorgia Meloni, elle a une cohérence, parce que depuis 2011, ce parti, en fait, qui a été fondé un an plus tard, a toujours été à l'opposition, et donc une partie des Italiens se disent pourquoi pas essayer Madame Meloni. Donc c'est une des différences entre Fratelli d'Italia et la Lega de Matteo Salvini. L'autre différence, c'est que la Ligue est quand même bien plus enracinée dans le nord richissime de l'Italie, le nord qui fait partie des plus riches régions de l'Union européenne.
Voilà, Matteo Salvini, qui, on le rappelle, a déjà été au gouvernement italien. C'était du temps où il y avait cet attelage un peu baroque entre d'un côté le parti anti-système mouvement 5 étoiles et donc la Ligue dans la même coalition avec au centre un technocrate, hein, Giuseppe Conte. Alors, il y a un autre homme dans cette coalition de centre-droit, qualifié de centre-droit en tout cas de l'autre côté des Alpes, c'est Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil. Quel rôle peut-il jouer? Il a un pouvoir de nuisance énorme. C'est lui, on le rappelle, en tout cas sa formation, qui a fait tomber le précédent gouvernement dirigé par Mario Draghi.
Il y a contribué avec aussi le suffrage des élus, ou plus exactement avec le soutien des élus de la Ligue au Parlement. Oui, vous avez raison, c'est Silvio Berlusconi le retour. Plus de 80 ans, un homme fatigué, affaibli, mais qui est toujours là, qui a son parti, qui est un parti personnel, Forza Italia, cet homme qui a dominé la vie politique en Italie pendant près de 20 ans, qu'il soit au pouvoir ou à l'opposition, bah, il est toujours là. Et il est dans cette coalition de centre-droit. Il admet pour le moment que Giorgia Meloni pourrait être la leader justement de cette coalition et donc éventuellement la future présidente du Conseil. Attention, ça dépendra du président de la République. Et permettez-moi de vous corriger, attention à cette idée que le président de la République en Italie n'a aucun pouvoir. C'est une erreur. Il a beaucoup de pouvoir et jouera un grand rôle. Mais oui, Silvio Berlusconi est là et il va jouer toujours avec l'ambivalence qui le caractérise, à la fois quelqu'un de la droite radicale et de la droite modérée. Et donc, si cette coalition l'emporte, il va jouer, lui, la carte justement de l'homme du centre, de la modération, de la carte pro-européenne. On dit même qu'il ambitionnerait d'avoir la présidence du Sénat. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une des deux chambres très importantes en Italie dans le système parlementaire italien.
Mais alors, le président Sergio Mattarella, si après les scrutins généraux du 25 septembre, se retrouve avec une coalition de droite qui fait entre 45 et 47% des voix, et en vertu de l'accord de coalition que la principale force, c'est celle de Giorgia Meloni, il sera contraint de la nommer présidente du Conseil, non ?
Oui, bien sûr, ça sera un rapport de force.
C'est par là que j'entends qu'il n'a pas de réel pouvoir.
Oui, mais attention, oui, bien sûr. D'abord, il faudra voir exactement le nombre de parlementaires. Hein. C'est ce que vous avez dit, le système électoral est compliqué. Il va falloir voir combien exactement il y a de députés et de sénateurs. Oui, bien sûr, a priori, le président de la République est obligé d'appeler le parti le plus important de la coalition. Et donc, si c'est Frères d'Italie, eh bien, il va recevoir au palais du Quirinal, le palais présidentiel, Madame Meloni, lui proposer de former un gouvernement. Mais attention, il a l'article 92 entre les mains. Et qu'est-ce que dit l'article 92 entre les mains? C'est que le président de la République, c'est lui qui, sur proposition du président du Conseil, nomme ou pas les membres du gouvernement. Et il a déjà utilisé ce pouvoir, le président Mattarella. Et s'il voit qu'il y a des gens qui ne lui plaisent pas, ou plus exactement, qui risquent de remettre en cause les fondamentaux de la Constitution italienne, eh bien, il refusera la composition de ce gouvernement. On aura une période de très grande tension, une sorte de crise institutionnelle en Italie,
à laquelle les Italiens se sont plutôt habitués. Alors, cette arrivée de la droite en force attendue à la fin du mois de septembre, c'est aussi dû à la déconfiture du centre et de la gauche. La NUP à l'italienne a échoué entre le Parti démocratique de Matteo Renzi, aujourd'hui Monsieur Letta, qui voulait s'allier avec Plus d'Europe et Azione et Action. Ça n'a pas marché, cette coalition. Et ça s'est joué à
toute chose. Alors, attention. Oui, vous avez raison, ça n'a pas marché. Le Parti démocrate, c'est un parti de centre-gauche. Hein. C'est un parti, disons, comparable au Parti socialiste ou aux sociaux-démocrates en Europe. Et M. Enrico Letta, qui en est le chef, a essayé de constituer une coalition qui rassemblerait à la fois des centristes, donc des gens très modérés, et une partie de gauche plus radicale. Il a échoué. Et donc, le Parti démocrate se retrouve seul. Et attention, hein, il représente lui aussi 22 à 23% des voix, c'est-à-dire autant que Frères d'Italie. Mais son drame, c'est qu'il a des alliés extraordinairement faibles. Il est allié pour le moment à des petites formations de gauche. Donc c'est vrai qu'il part au combat, si j'ose dire, pour employer cette métaphore, dans cette campagne électorale, dans une situation de grande difficulté, de grande faiblesse. Et évidemment, il paye à cet égard le fait qu'il a soutenu tous les gouvernements depuis 2011 exactement, et donc il apparaît comme un parti de gouvernement dont les Italiens sont un peu lasses et dont ils sont un peu lassés et dont, pour lesquels ils voudraient justement une alternative, et cette alternative pour le moment est représentée par cette coalition de centre-droit.
Et puis il y a un autre paramètre, hein, très important, qui affaiblit terriblement les partis de gauche et de centre-gauche italiens, c'est le Rosatellum, ce système électoral mis sur pied en 2018 par ces mêmes partis de centre-gauche. C'était à l'époque pour contrer l'émergence du parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, hein, de Beppe Grillo. Ça se retourne contre ses propres concepteurs, si j'ai bien compris.
Oui, vous avez tout à fait bien compris, mais il faut expliquer peut-être aux
Ah, mais c'est
auditeurs
pour
en
ça que vous
quelques
êtes là
mots.
avec nous, Marc Tazard.
Je vous en prie. Merci beaucoup de votre invitation. C'est que deux tiers des élus seront désignés au suffrage proportionnel, c'est-à-dire en fonction de votre pourcentage, vous avez une représentation parlementaire. Et puis le reste des députés et des sénateurs sont élus à ce qu'on appelle au scrutin uninominal à un tour. C'est très simple à comprendre, c'est celui qui arrive en tête qui est élu. Or, la droite, le centre-droit, va avoir un seul candidat dans ses collèges, ce qu'on appelle des collèges, qu'on appelle chez nous des circonscriptions électorales. Et comme la gauche, elle, est divisée, bah, vous avez compris, c'est pas la peine d'avoir fait 10 années de sciences politiques, et bien, celui qui arrive en tête, c'est celui du candidat de la droite, qui a toutes les chances d'être élu face à des candidats de gauche qui seront divisés. Donc oui, c'est vrai qu'on s'attend à 40 à 45% d'intention de vote pour le centre-droit et la droite, mais peut-être 60% de députés, de sénateurs qui appartiendront à cette coalition.
Alors on a bien compris qu'il fallait se préparer à avoir l'extrême droite à la tête de la troisième économie de l'Union européenne. Dernière question, Marc Lazare. Il y a un risque que ça fasse tache d'huile parmi les 27?
Oh, je ne crois pas qu'il y ait un made in Italie en politique, comme il n'y a pas de made in France en politique. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que l'on voit en Italie, bien, on l'enregistre dans beaucoup de pays européens. C'est la progression d'un certain nombre de formations de droite très radicalisées qui prospèrent sur toutes les difficultés que nous connaissons, des difficultés économiques, sociales, des difficultés aussi d'insertion de l'immigration, des difficultés aussi culturelles. Qu'est-ce qu'on est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire d'être italien? Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Sur tout cela, ces formations de droite ont le vent en poupe et c'est vrai qu'elles progressent en Italie comme ailleurs.
Merci beaucoup Marc Lazare, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Italie. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'il se passe chez nos voisins italiens. Merci également d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. À très bientôt.